Chapitre 2. À midi, le lendemain, M. Sebron reçut par pneumatique la lettre suivante. « Cher docteur et ami, je vous donne ce nom d'ami parce que vous êtes l'homme que j'estime le plus au monde et je vous serre affectueusement la main pour votre démarche d'hier. Je la pressentais, je l'espérais même, car je vous crois assez d'indépendance d'esprit et de caractère pour ne pas reculer devant les révélations que j'entends vous faire. Gertrude m'a tout confié, mais bien qu'ayant l'air d'abonder dans son sens, j'ai résolu de ne rien vous cacher. Instruit par un tiers, vous serez libre de vous retirer si bon vous semble, et l'honneur sera sauf, puisque le refus d'hier est bien suffisant pour couvrir votre retraite. Mais si vous persistez, comme je le crois, votre amour saura vaincre les scrupules délicats de cette charmante fille. » Venez me voir dès aujourd'hui si vous le pouvez, ou alors demain dans la matinée. Du reste, j'ai besoin de votre visite comme médecin. Cette crise de goutte est plus longue que les précédentes, et vous me direz si vous prévoyez le moment où je sortirai enfin de mon lit. À vous, très amicalement, Chantepie. » Sebron répondit aussitôt par télégramme. « Je pars dans une heure pour Orléans, où j'ai deux rendez-vous qu'il m'est impossible de remettre, n'étant libre ou à peu près que le dimanche. Malgré ma hâte de vous voir, il faut attendre à demain matin vers 10 heures, et encore je n'aurai à moi qu'une vingtaine de minutes, tant je suis débordé par mes consultations. Vous ne soupçonnerez jamais le bien que m'a fait votre lettre, et vous avez 1000 fois raison. J'aime trop profondément Mademoiselle D., pour que des malheurs passés, dont je connais déjà la nature, me fassent reculer. À nous deux, nous triompherons, cher monsieur, et votre appui suffirait pour lever les difficultés. Mais il y a dans un amour partagé, car elle m'aime, une force irrésistible. Demain soir, je la reverrai, et ne la quitterai pas sans qu'elle se soit engagée. Bien cordialement vôtre, Sebron. » Il revint chez lui au milieu de la nuit, et rêva longtemps aux étoiles, pendant que les bruits sourds de la ville et les senteurs qui sortaient du jardin de Marie de Médicis s'associaient à sa joie intime. Après son veuvage, il avait quitté la maison qui lui rappelait de tristes souvenirs, et nulle femme n'était entrée dans son appartement actuel. Il voyait déjà Gertrude apportant à son foyer solitaire la grâce de sa beauté, le charme de son intelligence et de ses qualités féminines. Son refus la lui rendait plus chère, car une vive admiration se mélangeait désormais à ses sentiments. Il avait la plus haute estime pour le courage silencieux et l'énergie dans le travail, mais il lui semblait surhumain qu'on refusât, par délicatesse excessive, de prononcer le mot qui doit terminer une existence malheureuse. À 10 heures, dans la matinée, son coupé s'arrêtait rue Vavin. La concierge se précipita au-devant de lui. « Vous avez vu mon fils, monsieur le docteur ?»« Votre fils ? Mais non. Est-il venu chez moi ? Est-il malade ? Je ne reçois jamais le matin. »« Non, non, il est allé vous chercher pour monsieur Chantepie, qui est mort cette nuit. »« Mort ? » s'écria Bernard. Dans son saisissement, il demeura sans voix, sans entendre la concierge qui parlait avec volubilité. « Mort ? » répéta-t-il. « Ce n'est pas possible. Il m'a écrit hier et ne parlait que de son accès de goutte, qui n'offrait aucun danger, je le sais. »« C'est une attaque, je pense, monsieur le docteur. Montez, je vous en prie. » Monsieur Sebron monta promptement, bien que le coup imprévu eût été si vif qu'il se sentait brisé, courbaturé, comme s'il venait de passer par une extrême fatigue physique. Encore un chagrin pour ces pauvres femmes, se disait-il. La porte lui fut ouverte par la femme de charge qui pleurait, et dans la chambre, il trouva le concierge avec un ami de M. de Chantepie qu'on était allé chercher précipitamment. Sans être très lié avec le défunt, M. Verchères, qui demeurait rue d'Assas, venait le voir assez souvent. C'est affreux, docteur, dit-il. J'ai causé avec lui hier même. Il était assez gai parce qu'il souffrait moins que les jours précédents. Sebron s'approcha du lit. Son examen fut long et minutieux. « C'est une attaque où la goutte est remontée au cœur, n'est-ce pas, docteur ? demanda M. Verchères, un peu étonné de la longueur de l'examen. Quelques secondes se passèrent encore avant que Sébron ne se retournât pour répondre à la question. « Non, » dit-il d'un ton froid et un peu bref qu'il avait toujours dans ses consultations. « Non, rien de tout cela. Monsieur de Chantepie est mort empoisonné. »« Empoisonné ?» répétèrent M. Verchères et le concierge. « Empoisonné ?» dit la femme de charge consternée. « Comment se serait-il empoisonné ? C'est affreux !»« Et j'ai lieu de croire que c'est avec de l'aconitine. » En avait-il en sa possession, Sophie ? Demanda-t-il à la femme de charge qu'il voyait depuis 10 ans et appelée par son petit nom. « Je ne pense pas, monsieur, je ne lui ai jamais apporté d'aconitine. »« Vous lui faisiez toutes ses commissions ?»« Oui, toujours. Il marchait si lentement et depuis 2 semaines, il était cloué dans son lit. Monsieur le docteur le sait bien ?»« Oui, » répondit distraitement Sébron. « D'ailleurs, on ne délivre pas d'aconitine sans ordonnance, et moi, son médecin, je n'ai jamais eu à lui en ordonner. Il n'a pas consulté un spécialiste en dehors de moi ?»« Non, monsieur. » Sauf Bernard, qui avait recouvré son calme, il se regardait d'un air effrayé. « Alors, vous concluez ?» dit M. Verchères. « Je n'ai pas encore le droit de conclure, mais je soupçonne un crime. Où est la seringue Prava ?» dont M. de Chantepie se servait pour ses injections de morphine. Personne ne répondant, il regarda autour de lui et aperçut l'instrument sur la cheminée. Il examina attentivement et ne vit aucun indice. Mais un papier froissé, jeté derrière un candélabre, attira son attention. Il le déplia avec précaution et aperçut quelques parcelles cristallisées. De plus, le fond d'un verre, dans lequel avait probablement été dissoute l'aconitine, conservait encore un peu de liquide qu'il serait aisé d'analyser. Sébron, posant le verre et le papier, jeta un coup d'œil vers un secrétaire où la clé était restée. « Prévenez le commissaire de police, » dit-il au concierge. « Pour moi, je reviendrai dans 2 heures. Cette affaire est du ressort de la justice. »« Monsieur le docteur ne veut pas attendre le commissaire ?» dit le concierge tout tremblant. Ce serait normal, évidemment, mais j'ai, avec un confrère, une consultation urgente et je suis déjà en retard. Il prit à part M. Verchères. Voulez-vous être assez bon pour rester ici afin qu'on ne touche à rien en attendant la police? Ces pauvres gens sont assez bouleversés pour commettre une maladresse. J'attendrai, je vous le promets. Vous devriez déjà être parti, dit Sébron au concierge. Puis il s'approcha de la femme de charge qui sanglotait. « Allons, allons, ma pauvre Sophie !»« Ah, monsieur, un si bon maître! Si j'avais été auprès de lui, ce ne serait pas arrivé. Je n'aurais pas dû l'écouter. » »« On n'en sait rien. En tout cas, vous ne pouviez pas l'obliger à vous garder et vous n'avez rien à vous reprocher. Ne touchez à aucun objet avant l'arrivée du commissaire. » « Oh non, mais je ne veux pas rester seul. Monsieur Verchères reste avec vous. » Dans le désarroi où le jetait cette mort, que les circonstances rendaient si pénible, Sébron ne songea pas à demander si Madame de Plémont avait été prévenue. Au bas de l'escalier, l'idée lui vint de monter chez elle, mais en regardant sa montre, il changea aussitôt d'avis. « Déjà une demi-heure de retard, » dit-il avec impatience. « D'ailleurs, si elles ignorent encore leur malheur, les pauvres femmes l'apprendront toujours trop tôt. En revenant, j'irai chez elles. Quelle terrible chose !» Après ces visites, qu'il absorbèrent jusqu'à 1h30 de l'après-midi, il revint rue Vavin sans prendre le temps de déjeuner. « Le magistrat vous attend avec impatience, monsieur, » lui dit la concierge. « Ah, déjà là ?»« Oui, monsieur, depuis longtemps. » « Monsieur le procureur de la République est même parti après avoir interrogé tout le monde dans la maison. Monsieur le juge d'instruction voulait qu'on courût vous chercher, mais nous avons dit que vous deviez venir tout de suite après vos visites sans rentrer chez vous. » Le juge d'instruction, Monsieur de Monvois, homme de 60 ans, magistrat intègre et bon, avait été très lié avec le père de Bernard. Il reçut Sébron dans le salon et lui serra la main avec un plaisir évident. Ah, mon cher docteur, dit-il à voix basse, il y a longtemps que je n'ai eu la satisfaction de causer avec vous, et nous nous revoyons dans de tristes circonstances. Le reproche que vous m'adressez paraît mérité, mais si vous saviez comme je suis débordé... Je sais, et ne vous adresse aucun reproche, croyez-le bien. Voyons, passons sans tarder à notre affaire. Selon vous, il y a empoisonnement ? Assurément. Voulez-vous entrer chez M. de Chantepie, je vous montrerai la preuve matérielle. Dans la chambre, un greffier écrivait, un agent de la sûreté était assis près du lit, et le concierge, que M. de Monvoy avait gardé auprès de lui, attendait qu'on voulût bien le laisser partir. Le docteur s'approcha de la cheminée. Voilà, dit-il au magistrat, un morceau de papier qui contient encore quelques parcelles d'aconitine. Oui, nous l'avons déjà examiné sur l'indication que vous-même avez donnée avant de partir. C'est vous, docteur, qui l'avez découvert ? C'était facile. L'assassin l'a jeté maladroitement sur la cheminée. De plus, dans ce verre, il y a un reste de liquide qu'on analysera. Pourquoi dites-vous l'assassin ? Monsieur de Chantepie n'a-t-il pu s'empoisonner lui-même ? Il souffrait beaucoup de la goutte et... Il n'était pas homme à commettre une lâcheté pour éviter quelque souffrance, d'autant qu'il avait des principes religieux intransigeants. D'ailleurs, matériellement, la question du suicide ne se pose même pas. Monsieur de Chantepie, depuis 2 semaines, ne mettait pas le pied par terre. Il est mort dans son lit et la seringue qui a servi à l'injection d'aconitine est encore sur la cheminée, fort loin de la victime. En effet, la conclusion s'impose. La mort a-t-elle été foudroyante ? Foudroyante, non, mais très prompte, certainement. Employée à 5 mg, l'aconitine tue un homme. La dose employée étant évidemment beaucoup plus forte, un arrêt du cœur a dû se produire rapidement. 30 minutes peut-être après l'injection. À quelle heure, d'après vous, M. de Chantepie est-il mort ? Probablement vers 10 heures. Personne, vous me l'avez affirmé, n'est monté chez M. de Chantepie hier au soir, dit M. de Monvoy au concierge. Personne, monsieur le juge, je n'ai pas quitté ma loge. Les habitants de la maison ont été interrogés, chacun était chez soi et n'a rien entendu. Comme je l'ai déjà dit à monsieur le juge, mademoiselle de Plémont est peut-être allée chez M. de Chantepie sans que je le sache, car elle avait une clé et passait par l'escalier qui relie les 2 maisons et sert d'escalier de service au bâtiment de devant. Mais si mademoiselle avait vu ou entendu quelque chose, elle m'aurait prévenu. Vous m'avez dit qu'elle faisait souvent la lecture le soir à M. de Chantepie ? Oui, monsieur. Mais il n'est pas supposable qu'elle soit sortie de son appartement hier. Pourquoi ? Elle a dit à ma femme qu'elle avait fait ses adieux à M. de Chantepie avant le dîner à cause des préparatifs de son départ. Comment son départ ? Dit M. Sébron en se tournant vivement vers le concierge. Oui, monsieur, ces dames sont parties aujourd'hui à 6 heures pour un petit voyage. Je crois bien qu'elles sont allées voir une amie de mademoiselle qui demeure en Suisse. Mademoiselle recevait souvent des lettres. Est-ce pour longtemps ? Je ne crois pas, monsieur. Monsieur de Monvoy observait l'étonnement pénible et non dissimulé du docteur Sébron. Nous allons passer dans le salon pour continuer notre enquête, dit-il. Nous n'avons plus besoin de vous, ajouta-t-il en s'adressant au concierge qui se retira avec empressement. Ces dames habitaient ici depuis quelques années et vous les connaissez beaucoup, docteur. Beaucoup, quoique depuis peu de temps. Elles étaient très liées avec leurs parents, c'est par lui que je les ai connues. Pauvres femmes, quel chagrin pour elles en apprenant la mort de leur vieille amie. Je regrette leur départ, reprit le magistrat, car elles nous donneraient sans doute des renseignements précieux. Croyez-vous qu'elles vous écrivent ? Oui, je suis sûr de ne pas tarder à recevoir des nouvelles, mais j'ai des raisons particulières pour être étonné de ce départ subi. Ce sont des femmes du monde ruinées, paraît-il ? Sébron allait répondre quand une idée traversa son esprit. Je pense, dit-il en riant, que la justice ne se couvrira pas de ridicule en soupçonnant des femmes comme Madame de Plémont et sa fille ? Qui parle de soupçons ? Mais la présence de personnes aussi liées avec la victime nous serait utile. Demain ou après-demain, j'aurai une lettre. » Monsieur de Monvoy, qui examinait un papier, leva les yeux et rencontra le regard ferme, presque irrité du docteur. « Revenons aux causes de la mort, » dit-il froidement. Il interrogea minutieusement Sébron, qui lui promit son rapport pour le jour même. « Maintenant, » dit le juge au greffier, « allez m'attendre dans la chambre de M. Chantepie. J'ai un mot confidentiel à dire au docteur Sébron. » Il referma la porte avec soin et attira Bernard à l'autre extrémité de la pièce. « Docteur, » dit-il aussitôt, « il y a des coïncidences fâcheuses. J'ignore quels sont vos rapports exacts avec Mesdames de Plémont, mais tenez-vous sur vos gardes, car je vous confie que l'enquête tournera, se tourne déjà de leur côté. » « De leur côté ?» répéta Sébron avec stupéfaction. « Êtes-vous fou ? Oh, pardon, mais savez-vous bien de qui vous parlez ?»« Non, et c'est pour le savoir que nous allons chercher. » Le premier mouvement de Sébron avait été de répondre par un rire moqueur. « Je m'excuse de ma franchise, mais vous allez me faire croire, » dit-il en haussant les épaules, « que la magistrature est... »« Imbécile, voulez-vous dire ?» « Allons, Bernard, » dit M. de Monvoy avec bonté, « laissez-moi vous appeler toujours par votre petit nom, je vous ai tant choyé enfant. Et dites-moi quel intérêt particulier il y a pour vous dans cette affaire. » « J'ai demandé la main de Mademoiselle de Plémont avant-hier et je la considère comme ma fiancée. » « Votre fiancée ? Et vous ignoriez son départ ?» Sébron, frappé au cœur, recula de quelques pas, dominé par la colère la plus violente qu'il eût jamais éprouvée. « Si vous n'étiez pas un magistrat dans l'exercice de son mandat, si vous n'étiez pas un ancien ami que j'honore, Dieu sait ce qui arriverait » dit-il d'une voix étouffée. Monsieur de Monvoy était loin de s'attendre à la révélation de rapports aussi sérieux entre Bernard et Mademoiselle de Plémont. Pour des raisons particulières, il en était presque bouleversé et se sentait toutes les indulgences pour les écarts de langage où une violente irritation entraînait Sébron. « Mon cher Bernard, calmez-vous, je vous en prie, et conservons l'un et l'autre notre sang-froid. Raisonnez un instant. À ma place, vous penseriez comme moi que le départ de ces dames dans la matinée qui suit la nuit du crime, sans même que vous ayez été prévenu, est pour le moins singulier ?» « Simple coïncidence, et si c'est là toute la base de votre soupçon, il est aisé de l'ébranler, » dit vivement Sébron. « Ma demande a été repoussée sur ce prétexte que des faits déshonorants pour leur nom ne permettaient pas à Mademoiselle de Plémont de se marier. J'ai insisté afin d'obtenir une explication qui m'a été refusée, mais je devais, ou du moins j'espérais la voir ce soir même, et enlever la position. » Elles ont fui par délicatesse dans la crainte de céder, et elles auraient cédé d'autant plus facilement que M. de Chantepie, leur conseiller et leurs parents, était mon allié. Il me l'a écrit. Quand cela ? Hier, en me donnant un rendez-vous ce matin. M. de Monvoy, les yeux baissés, réfléchissait, et ses appréhensions, en pensant à Sébron, devenaient plus vives et plus pénibles. Il ne lui disait pas que les réponses de certains interrogatoires étaient une charge bien autrement grave qu'un départ précipité, bien que cette dernière circonstance fût un nouvel anneau ajouté à la chaîne. « Bernard, mon cher enfant, » dit-il tout à coup, « mon âge m'autorise à vous parler comme autrefois. Je m'intéresse à vous et vous aime toujours comme le fils très cher d'un excellent ami. Je veux donc vous donner un conseil tout paternel que je vous supplie d'écouter et de suivre. Votre réputation grandit chaque jour, votre caractère est universellement respecté. Croyez-moi, acceptez la fuite de Mademoiselle de Plémont comme le moyen normal de ne plus la revoir. C'est du reste son désir à elle-même. Paraissez seulement dans l'affaire comme le médecin appelé pour les constatations légales. » Chaque mot, chaque intonation ajoutait à la stupeur de Sébron. Il comprenait que M. de Monvoy, à demi-convaincu, cachait les raisons principales de sa conviction. Il sentait en outre que ses propres paroles avaient apporté un appui aux idées du magistrat. Il réussit momentanément à contenir sa colère. Avec la promptitude de jugement qui était, en temps ordinaire, une des qualités de son intelligence, il vit les conséquences, pour lui et pour Gertrude, de cette erreur à ses yeux monstrueuse, même si elle était promptement reconnue. Jamais son amour n'avait été plus fort, plus ardent. La générosité de sa nature le poussait à se poser en protecteur de la femme aimée, qu'il savait être innocente, et si, malgré tout, les paroles paternelles de M. de Montvoy le touchaient, elles le révoltaient également jusqu'au fond du cœur. « C'est Mme de Plémont que vous soupçonnez particulièrement ?» demanda-t-il. « Non, sa fille. » Sébron s'avança vers M. de Montvoy dans un mouvement violent, mais il s'arrêta court pour répondre avec une chaleur inexprimable. « Rien n'est meilleur, plus pur, plus innocent que Mademoiselle de Plémont. Je le répète et le dirai hautement partout. Elle est ma fiancée, je me considère comme son protecteur naturel, et malheur à ceux... » Il leva la main dans un geste éloquent. « Mon cher Bernard, de grâce, ne cédez pas à un entraînement irréfléchi, » lui dit M. de Montvoy. « Entraînement irréfléchi, allons donc, suis-je un homme que l'on taxe d'irréflexion ? Mais je soutiens que je serais le dernier des lâches si je ne prenais pas en main la cause de la femme innocente à laquelle, il y a quelques heures, j'avouais mon amour. Vous ne persisterez pas dans votre accusation. Ce serait odieux si ce n'était le comble du ridicule. » Il suivait son idée sans peser ses mots, et c'est à peine s'il pensait à M. de Montvoy en parlant avec tant d'ardeur et d'autorité. Dans toute autre circonstance, le magistrat eût été vivement froissé, mais il jugeait avec son cœur la situation et répondit avec bonhomie « Odieux, ridicule, soit, ce que vous dites là, vous devez le dire. Mais vous ne savez pas tout, et ce tout, je ne vous le révélerai pas aujourd'hui. Pourquoi ? Dites, dites ! Je vous répondrai, j'anéantirai d'un mot ces absurdités. » Monsieur de Montvoy secoua négativement la tête. « Je ne parlerai pas maintenant, mais, je vous le répète, Bernard, suivez mon conseil. » « Jamais, jamais !» Le visage énergique de Sébron exprimait une angoisse et une indignation qui achevèrent d'émouvoir Monsieur de Montvoy. Il laissa passer quelques instants avant de dire d'un ton conciliant « Je reviens à des questions de professionnels. Pouvez-vous me fournir des indications sur les habitudes de Mesdames de Plémont ? Avez-vous quelque idée sur le moyen pratique de découvrir rapidement leur nouvelle adresse ? Il est dans leur intérêt, remarquez-le bien, de ne pas se cacher. » « Je ne connais rien, » répondit sèchement Bernard. Il était sincère, mais à peine la réponse prononcée, il se souvint que la maison pour laquelle travaillait Gertrude était en Nanterre. Pendant la maladie de Madame de Plémont, la jeune fille avait prié Bernard de jeter une lettre à la poste en disant « Je préviens la maison qui me donne du travail que je n'irai pas reporter mon ouvrage d'ici un certain temps. » Machinalement, il avait regardé l'adresse et se rappelait parfaitement le nom de l'endroit. C'était un renseignement intéressant qu'il entendait garder pour lui. « Eh bien, vous ne vous rappelez rien ?»« Si, mais je ne parlerai pas jusqu'à nouvel ordre. » »« Cependant, il y a intérêt pour la cause que vous soutenez à ne pas dissimuler. » »« J'agirai comme bon me semblera. C'est moi-même qui veux chercher Mademoiselle de Plémont et la prévenir des soupçons que vous faites peser sur elle. » »« Bien, bien, c'est entendu, » répliqua M. de Montvoy qui sentait Bernard sur le point de s'emporter. Il lui restait à poser une question importante et se demandait comment elle allait être accueillie. « Docteur, veuillez répondre à la question suivante. Madame de Plémont, m'a-t-on dit, a été longtemps malade. Entrait-il de l'aconitine dans son traitement ?»« Oui. »« Oui ?» s'écria M. de Montvoy en levant les sourcils d'un air significatif. « Oui, » reprit Sébron irrité. « Mais vous devez savoir à quelle dose infime cette substance est employée et jamais à l'état pur comme celle qui a été dissoute pour l'injection. Vous savez que... » Tout à coup, il s'interrompit, frappé par un souvenir. Il se rappelait avoir donné à Mademoiselle de Plémont des explications sur la violence du poison et sur la dose relativement faible qui tuerait un homme. Étrange rapprochement qui le faisait pâlir malgré lui. Lorsqu'il entrait dans ses explications, une seconde personne allait et venait dans la chambre. Mais qui était-ce? Et à quel moment cette conversation sur les propriétés de l'aconitine avait-elle eu lieu? Pendant la période aiguë de la maladie ou plus tard? Dans le premier cas, la personne présente devait être simplement la sœur garde-malade, et alors? Il souffrait cruellement de son défaut de mémoire, et M. de Monvoie, observant sa physionomie tourmentée, comprenait qu'il eût été très utile pour l'instruction de connaître les pensées secrètes de ses bronnes. Celui-ci sortit de son mutisme pour dire fermement « C'est aussi monstrueux que de me soupçonner moi-même. » « Tant mieux, je désire de tout mon cœur m'égarer, » répondit avec empressement M. de Monvoie, « mais il faut les découvrir et me les amener. Un modèle changera peut-être entièrement la face de la question. » Ce sera fait, soyez-en certains. Elles ne sont pas femmes à se dérober devant une accusation aussi énorme et ridicule. Il salua avec raideur, descendit l'escalier en courant et se jeta dans sa voiture après avoir dit au cocher de le conduire chez M. Desjonchères. L'avocat fumait tranquillement dans son cabinet au milieu d'une montagne de livres et de papiers. Il se leva à l'entrée de son ami et s'écria « Qu'as-tu, mon Dieu? Qu'est-il arrivé ?» L'aspect de ses bronnes motivait bien cette question effrayée. Pâle, défait, le regard troublé, il avait perdu le calme extérieur sous lequel se dissimulaient habituellement les impressions d'une nature pondérée, mais douée toutefois d'une grande sensibilité. Il tomba pesamment sur un siège et ne répondit pas à son ami. Monsieur Desjonchères, inquiet, lui prit la main. « Mais tu as la fièvre, Bernard !»« C'est possible, qu'importe, il ne s'agit pas de moi. Gertrude !»« Eh bien !» Sébron raconta les événements et d'un ton emporté que son ami ne lui connaissait pas, parla des soupçons de M. de Monvoie. « Elle !» s'écria-t-il, « elle ! Comme je l'ai répété à ce juge imbécile, c'est aussi monstrueux que de soupçonner moi ou toi. La pauvre enfant ! La pauvre enfant !» Quoique habitué à recevoir des confidences extraordinaires, M. Desjonchères n'avait jamais éprouvé un tel étonnement. « C'est inouï, dit-il. Quoi, la femme que tu voulais épouser est soupçonnée d'avoir commis un assassinat? Rêvons-nous ou sommes-nous dans la réalité ?» Les lèvres de Sébron tremblaient. « Nous sommes trop éveillés, répondit-il. « Voyons, reprit M. Desjonchères, en avocat qui veut pénétrer dans la cause. Voyons, pourquoi Mademoiselle de Plémont est-elle soupçonnée avant sa mère? L'as-tu demandé à M. de Monvoie ?»« Non, j'étais hors de moi, mais je devine en partie pourquoi. En me disant que je ne savais pas tout, il a fait allusion à des circonstances que je connais, révélées par les concierges ou par Sophie. « Qui est Sophie ?» La femme de charge de M. de Chantepie. Quelle circonstance ! M. de Chantepie, lorsque ses douleurs étaient trop vives, se servait de morphine sous forme de piqûre. Mademoiselle de Plémont employait une ou deux heures de la soirée à lui faire la lecture et, avant de le quitter, préparait souvent elle-même. Oh ! Interrompit avec effroi M. Desjonchères. Selon toute probabilité, elle n'est pas allée hier soir chez M. de Chantepie. On le prouvera, il n'y a rien à craindre, dit Sébron d'un ton saccadé. Il faut retrouver ces femmes le plus tôt possible. N'as-tu pas parlé tout à l'heure d'un moyen pratique pour arriver jusqu'à elles? Oui, et il me faut quelqu'un pour agir aujourd'hui même. Moi, je suis retenu impérieusement par mes malades et par le rapport que je dois envoyer ce soir au magistrat. « J'irai moi-même, dit M. Desjonchères. Je suis libre et vais partir. Où faut-il aller ?»« À Nanterre. Elle travaille pour une maison qui fabrique les gants de laine dont on se sert pour friction. J'ignore l'adresse, mais là-bas tu te renseigneras facilement. »« Oui, j'ai un client à Nanterre. C'est un négociant. Si je le rencontre, tout sera vite fait. Je pars à l'instant. Mais il se ravisa en observant l'air fatigué de ses braunes. Au milieu de ces choses terribles, à quelle heure as-tu déjeuné, Bernard? Déjeuner? Est-ce qu'on peut penser à la vie physique quand... Pas déjeuner, et il est 3h30. Si tu voyais ton visage, mon pauvre ami, et tu dois aller chez tes malades pour leur offrir le spectacle d'un médecin qui défaille, on va t'apporter ici un repas froid. Il sonna son valet de chambre, donna ses ordres et revint s'asseoir auprès de Monsieur Sébron. Voyons, mon cher Bernard, remets-toi. L'erreur sera sans doute rapidement constatée. Il n'y a pas lieu probablement de tant se bouleverser. En tout cas, il faut conserver ton énergie et ton sang-froid. Ces deux qualités ne t'ont jamais manqué. Je ne fléchirai pas s'il s'agissait de moi, mais savoir cette femme exquise que j'aime passionnément. Accusée, elle, ne fût-ce qu'une minute. C'est épouvantable. Le plus indifférent, la connaissant, serait transporté de fureur ou d'indignation. Dès aujourd'hui, il peut se produire un fait qui anéantira tout soupçon. Ainsi, agissons. Découvrons-la et nous verrons après. Oui, répondit Sébron avec ardeur, agissons. Elle aura, dans cette circonstance extraordinaire, tout l'appui que je lui donnerais si j'étais son mari. Cette idée le calma et, cédant aux instances de son ami, il mangea rapidement. Ce magistrat est un brave, un excellent homme, je le sais bien, malgré mon irritation contre lui. Et cependant, il me conseillait d'abandonner lâchement Gertrude. Comment, quel conseil? Tu ne m'avais pas dit cela. Oui, monsieur de Monvoy, se plaçant sur le terrain de mon intérêt personnel et de la vieille affection qu'il m'a conservée, affirmer que mon caractère, universellement respecté, ma réputation qui grandit chaque jour, ce sont ses propres expressions, ne devait pas être compromis dans cette affaire. Profitez du moyen qu'elle-même, en fuyant, vous a fourni de ne plus la revoir. Suivez mon conseil paternel, etc. Telles sont ses affectueuses mais absurdes paroles. Monsieur Desjonchères affectait par contenance de ranger des papiers. Les conseils du magistrat sont une preuve de sa conviction, pensait-il. Et pour qu'il y ait conviction déjà formée, il faut des présomptions bien graves. Malheureux Bernard. Sébron, reculant la petite table sur laquelle on lui avait servi son repas, se prépara à partir. Et toi, tu vas tout de suite à Nanterre, n'est-ce pas, Henri? Oui, répondit en hésitant Monsieur Desjonchères. Qu'est-ce que tu as? Ta physionomie est singulière. Écoute, Bernard, ne t'emporte pas. Ne penses-tu pas que... Quoi donc? Enfin, réfléchis. Ne serait-il pas sage de suivre, au moins momentanément, le conseil de Monsieur de Monvoy? Et c'est toi, homme d'honneur, homme de cœur, qui parles ainsi? S'écria Sébron. Je t'aime, et alors j'hésite. Où allons-nous dans cette aventure? Nous allons dans le droit chemin, et moi je n'hésite pas un instant, répondit froidement Sébron, auquel l'hésitation de l'avocat rendait sa résolution naturelle. Je ne crois pas, mais je sais, entends-tu bien, je sais que Gertrude est une femme admirable. Mon amour ne reculera devant rien pour la soutenir, et dès maintenant. Je suis aussi sûr d'elle que je suis sûr de moi. Soit, partons, dit brusquement Monsieur Desjonchères. Il prit son chapeau et suivit le docteur Sébron dans la rue. Tu viendras ce soir chez moi, dit Bernard. Oui, je m'installerai rue Vaugirard et je t'attendrai.